allongé avec notre invité installé sur le plateau de la radio africaine. J'accueille Alphonsine Nyelenga Bouya. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Vous êtes originaire du Congo, vous êtes diplomate à la retraite. Aujourd'hui, vous vivez en Belgique et vous êtes de passage à Paris. Je pense que c'est dans le cadre du Salon du Livre, c'est bien cela ?
Oui, exactement.
Merci de nous rejoindre. Et justement, vous êtes venu avec l'un de vos ouvrages. C'est un roman. Le titre, Le rendez-vous de Montbin Crochu. Alors, c'est un livre comme une aventure mystérieuse dans laquelle, en fait, vous embarquez vos lecteurs dans un univers un peu fantastique, on va dire, entre mysticisme et surtout le sujet du livre, c'est les violences faites aux femmes. Vous avez publié donc ce roman pour parler de cette problématique. Exact. Alors c'est vrai qu'il est rare de voir des femmes africaines parler de ces problématiques.
Oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré beaucoup, énormément de femmes qui ont été victimes de violences, mais qui n'en parlent jamais. Elles subissent ces violences et puis elles les vivent en elles, ces violences se cristallisent en elles et bien sûr avec tous les traumatismes qui peuvent s'en suivre. Et comme ça là, je me suis dit, il faut peut-être donner la parole à ces femmes-là. Je leur ai donné la parole, donc vous le verrez, elles vont venir une à une dans le livre. Oui. Et chacune va exprimer cette souffrance qu'elle porte en elle. Elle libère la parole, elle libère en même temps cette douleur qu'elle porte en elle pour pouvoir libérer leur être propre.
Se dégage de ce roman de la dureté, mais aussi de la poésie et de l'amour.
Exactement.
Et de la spiritualité aussi beaucoup.
Oh, beaucoup de spiritualité. Parce que je suis une personne très spirituelle, par ailleurs. Et je m'intéresse énormément à toutes les formes de spiritualité. Et je pense qu'à travers les spiritualités, on peut se réapproprier une certaine identité qu'on a perdue.
Alors justement, l'histoire se passe en Haïti. Vous y avez vécu ?
Oui, j'ai vécu en Haïti. Je suis d'abord partie plusieurs fois en Haïti en mission. Et puis, juste après le tremblement de terre, je me suis installée dans le cadre de ma profession.
Alors l'histoire, alors que l'héroïne se prélasse sous sa véranda, surgit une petite fille vêtue d'une robe rouge et bleue qui lui remet une lettre. C'est une invitation à renaître.
Exact. Une invitation à se rendre à un lieu nommé Montbin Crochu, mais que la narratrice ne connaît pas du tout. Donc, un lieu inconnu. Alors là, elle commence à partir avec ses deux amis, parcourir le pays. Elle se trompe d'ailleurs. Dans un premier temps, elle se trompe, elle va dans la direction opposée. Ouais. Et ensuite, elle se rend compte que ce n'était pas la bonne direction. Elle reprenne la direction du nord-ouest où se trouve du nord-est pardon où se trouve le lieu dit Montbin Crochu. Oui. Et c'est là que bon elles commencent leur continuent leur pérégrination jusqu'à arriver à cet endroit-là.
Alors à cet endroit où se passent des choses mystiques, il y a le vaudou dont vous parlez.
Oui.
Alors le vaudou, pourquoi avoir décidé de parler du vaudou?
Parce que le vaudou c'est une religion comme toute autre, hein. Il n'y a pas que le vaudou, il y a par exemple la visite des deux églises catholiques et il y a effectivement dans le livre la visite de Soukri. Soukri qui est une des cours sacrées du vaudou qui se réfère donc à mon pays d'origine, le Congo.
Ouais.
Pour moi qui suis vaudouisante, c'est une religion à part entière qui a été reconnue d'ailleurs par l'ancien président Aristide Bertrand, comme oui. étant une religion à part entière, qui a été beaucoup discriminée, beaucoup salie, mais qui est une religion comme toutes les autres religions. Et c'est une religion passionnante pour moi. Je pense que c'est une religion avec ses révélations, avec... En fait, toutes les religions sont animistes. Hein. Je veux dire que ce soit les religions juives, musulmanes, chrétiennes, la base même, elles le sont. Il faut considérer qu'en chaque espèce, en chaque élément de la nature, il y a une âme, il y a quelque chose qui ouais. vit. Donc, toutes les religions, à mon sens, elles sont animistes. Et le vaudou n'est peut-être pas la religion animiste par essence. Moi, je dirais que le vaudou, c'est une religion singulière, oui. avec toutes ses références et la richesse, justement, de cette religion ancestrale, c'est qu'elle a traversé tous les siècles, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. On en trouve des variantes en Haïti, dans les autres pays des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique, au Venezuela. C'est la mémoire vivante de l'histoire des Africains.
Il y a en tout cas beaucoup d'espoir dans ce livre, puisqu'en fait, c'est un peu un livre qui symbolise le redevenir, on va dire, mourir pour renaître et se transformer.
Oui, tout à fait. Parce que en fait, toute notre vie est faite de petites initiations, de cheminements initiatiques. Et à chaque fois qu'on traverse une étape, on laisse derrière soi la vieille femme ou le vieil homme qui était en nous et on revêt une nouvelle personnalité. Et donc, dans ce livre, effectivement, ces femmes qui ont connu des violences, qui ont été violées, qui ont été chassées de chez elles, elles arrivent là à Mambin Crochu, elles se défendent à travers la parole, elles se défendent donc de la vieille femme, du vieil homme, je dirais, même de la vieille femme, qu'elles ont trimballé avec elles partout pour renaître à nouveau. Donc en fait, il s'agit de mourir à soi pour renaître également à soi.
Vous êtes née à Brazzaville, au Congo. Vous avez vécu en Allemagne, au Sénégal, en France, en Italie, en Haïti. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, donc vous vivez en Belgique. Et vous êtes une amoureuse des mots. Vous avez participé à des anthologies de poésie. Vous êtes aussi l'auteur de Macandale dans mon sang, c'est un recueil qui est paru aux éditions La Doxa. Alors, parlez-nous un petit peu de vous.
C'est toujours difficile.
Oui, je sais.
Alors, je me dis tant pis pour la modestie.
Allez-y.
Donc, j'y vais. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse de 11 personnes et je crois que j'ai eu la chance d'aller faire mes études en Allemagne après donc mon baccalauréat.
Ouais.
Et sans fausse modestie, j'avais obtenu la meilleure note de philosophie au baccalauréat. Dans mon pays, à mon époque. Donc, après l'Allemagne, bon, je suis venue en France, où je suis restée longtemps. Mes enfants sont nés en France. Et puis, j'ai travaillé au Sénégal. J'ai travaillé...
Pour l'UNESCO, bon, c'est ça?
J'ai travaillé pour l'UNESCO, ici à Paris. Ensuite, je suis allée travailler pour le Programme Alimentaire Mondial.
Ouais.
Je dois dire que, bon, j'ai beaucoup voyagé, aussi bien en Asie, dans pratiquement tous les pays africains. Et ensuite, j'ai été affectée en Haïti, où je suis tombée amoureuse de ce pays.
Pourquoi?
Mais en fait, l'histoire remonte à beaucoup plus loin. Quand j'étais au lycée Savoignan de Brazza, à Brazzaville, j'ai eu un professeur de mathématiques qui était haïtien. Comme vous le savez, après les indépendances des pays africains, il y a eu beaucoup d'Haïtiens qui sont venus en Afrique comme coopérants pour aider nos pays à se relever de la colonisation. Et donc, j'avais eu ce professeur qui s'appelait Marcel Gilbert. Il s'est mis en tête qu'il fallait que je devienne une matheuse forte en mathématiques parce que j'étais nulle en mathématiques. J'étais la dernière de la classe. Et lui, il voulait absolument relever mon niveau en mathématiques.
D'accord.
Et donc, il me parlait. Il nous parlait de son pays, Haïti. Il nous invitait chez lui. Il y avait toujours des tableaux de Haïti. Et c'est ainsi que j'ai commencé à connaître ce pays sans y avoir mis les pieds. Haïti, pour moi, c'était comme un paradis inaccessible. Et puis finalement...
Ça a été le cas?
Oui, mais c'est-à-dire que quand j'ai eu la possibilité de m'y rendre, c'est là que j'ai... Waouh! Je me suis retrouvée. C'est comme si j'étais une errante, comme une sans domicile fixe. Et en arrivant en Haïti... Waouh, je me suis retrouvée. De retrouver la culture qui se perdait d'un côté au Congo, de la retrouver aussi vivante en Haïti, ça m'a permis de me retrouver moi-même dans mon essence vraiment profonde. Ça, c'est l'amour que j'ai. Parfois, souvent, je me dis, oh, on peut tomber amoureux d'un pays comme on peut tomber amoureux d'un homme. Mais on ne sait pas pourquoi et puis paf.
Et vous y êtes restée longtemps. Et pourquoi le divorce? Alors pourquoi vous avez quitté Haïti?
Je suis restée 5 ans.
Ouais.
Quand j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas partir. Mais il y a eu un événement assez triste qui s'est passé. Bon, où j'ai été... j'ai été agressée. Bon, c'était ma faute. Hein. J'étais dans une voiture non climatisée. les vitres baissées et puis il y a quelqu'un qui est venu m'attraper par le cou pour arracher ma chaîne. Ça a été, oui, ça a été un choc pour moi. Je partais pour revenir, en fait. Ouais. Je quittais, je me disais, je vais me changer un peu les idées et je reviens. Et puis finalement, bon, il y a ma famille quand même, mes petits-enfants, mes enfants qui sont ici. Ils ont essayé, ils m'ont convaincu. Mais maman, on va repartir, mais tu restes ici quand même, tu pourras voir tes petits-enfants plus souvent. Et donc, mais il n'y a pas eu divorce, hein, parce que il n'y a pas de divorce du tout. Je porte ce pays dans mon cœur et je crois que j'ai transmis cet amour de Haïti
à vos enfants,
à mes enfants et à mes petits-enfants.
Vous accompagne Bedel Baouna. Merci d'être avec nous. Bedel, vous pouvez juste vous rapprocher. Je sais que vous ne vouliez pas beaucoup parler, mais vous accompagnez notre invité. Merci de nous rejoindre. Alors, présentez-vous d'abord en quelques mots. Je sais que les auditeurs d'Africa numéro 1 vous connaissent pour certains déjà. Bonjour Bedel Baouna.
Je suis Bedel Baouna, d'origine congolaise. Je vis à Paris depuis presque 30 ans, analyste politique et de temps en temps critique littéraire. Mais je connais déjà ce plateau puisque j'ai déjà été à plusieurs reprises l'invité de l'ami Francis Lalopo.
Alors vous l'avez lu, le rendez-vous de Montbin à Crochu. Alors un mot sur cet ouvrage que vous avez d'ailleurs chroniqué.
Oui, c'est un livre qui m'a plu en tout cas depuis le début de cette année, 2019. C'est l'un des romans, comme je l'ai dit, qui m'ont plu, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. J'ai adoré la perspective narrative, ce point de vue interne, en tout cas la restriction du champ de vision. C'est un roman homodiégétique, c'est-à-dire la narratrice participe bien à l'histoire, donc à la première personne du singulier, et puis la fluidité du style, même s'il est cathartique, puisque les femmes vont vomir leurs souffrances, en tout cas avec les mots qui sont à elles. Et puis surtout, comment dirais-je, je dirais que Alphonsine Elegabouya manie l'angoisse et le suspense vraiment avec volupté.
Justement, vu le sujet, lorsque l'on est un homme, comment on ressort de cette lecture?
Je me dis que tous les hommes sont obsolètes, en fait. Vous voyez, c'est pour citer un titre d'un article qui a été paru il y a quelques années dans le magazine Le Point. Il était titré « Tous les hommes sont obsolètes ». Pourquoi ? Mais pourquoi faire tant de mal à la femme ? Alors que la femme, comme on dit, et c'est loin d'être un cliché, une idée reçue, que la femme c'est l'avenir de l'homme. Donc, pourquoi faire tant de mal à la femme? Mais à contrario, il y a aussi des femmes qui font du mal à l'homme aussi.
En proportion, c'est beaucoup moindre, mais c'est vrai que ça existe.
Oui, aussi. Mais on ne parle que des violences faites aux femmes. Donc, il faudra aussi un jour que Alphonsine Nielengabouya écrive un roman sur une femme qui fait qui violente son mari.
Oui, c'est vrai que ça existe. Et merci de l'avoir rappelé. Alphonsine Nielengabouya, qu'est-ce que tu as envie de dire au public? C'était quoi l'objectif en venant ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1, nous parler de votre roman?
L'objectif, c'est effectivement de pousser les femmes à lire ce roman, et les hommes également, parce que c'est vraiment un roman qui permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans le secret, aussi bien des foyers que dans les villages, et d'autant plus que cette année, on a eu quand même le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, qui a eu le prix Nobel. Ouais. Donc le roman, je pense qu'il tombe à point pour faire connaître ces violences que subissent les femmes et en même temps pour passer le message aux femmes que quelle que soit la situation, même si on a connu des violences, il y a toujours une possibilité de se relever, de se prendre en main et d'avancer dans la vie.
Merci en tout cas pour ce beau message. Vous vouliez peut-être nous lire un petit extrait de l'ouvrage Bedel Baouna. Allez-y, on vous écoute.
La voix de Timmy se brise dans un sanglot. L'émotion gagne l'assemblée. Un frisson glaçant traverse les colonnes vertébrales. Dantos avance vers Timmy et d'un geste de sa main libre lui fait signe de s'asseoir. Timmy se laisse tomber sur l'herbe comme une feuille que le vent refuse de transporter loin de la branche qu'il a portée. Elle fait face à l'est. Aussitôt, Somat, prise d'un soudain excès d'empathie, se glisse contre le dos de son ami, les genoux ramenés sur la poitrine, tournés vers l'ouest. Elles sont là, assises dos à dos, l'une prenant appui sur l'autre. Je les regarde, un imperceptible sourire de satisfaction étreint le contour de mes lèvres.
Merci beaucoup. Le rendez-vous de Mon Bain Crochu, c'est paru aux éditions Le Lys Bleu, un roman d'Alphonsine Nielenga Bouya qui était avec nous ce matin sur le plateau de la radio africaine. Merci également d'être venu, Bedel Baouna, avec notre invité. Merci à tous les deux et puis on vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à ça.